Chapitre 10. Réappropriation. En cette ultime danse où se joue le hasard, plus jamais ne serai ton cavalier de bal. C'en est un autre qui, sous mon triste regard, te fera parcourir en tournoyant la salle. En cette ultime danse où se joue le hasard, quand il me faudra dire à ta vie adieu, je voudrais que pour toi, elle ait tous les égards, que tu saches un jour t'envoler dans les cieux. En cette ultime danse où se joue le hasard, quand je serai certain de te perdre à jamais, te laisserai aller, regrettant ton départ, souhaitant que devant toi s'enfuient les vents mauvais. En cette ultime danse où se joue le hasard, nous verrons nos esprits l'un à l'autre avoués. Nous nous séparerons, endeuillés et hagards, quand le nœud qui nous lie se sera dénoué. Le destin me porta un dernier coup. Du moins, le vois-je ainsi aujourd'hui. Peut-être les dieux voulaient-ils appuyer la mise en garde de Prilcop. Avec une surprise à peine perceptible, je vis une obscurité éternelle, saupoudrée de points lumineux, d'intensité variée, comme si, allongé en haut d'une tour, je contemplais un ciel d'été nocturne. Mais sur le moment, je ne considérais pas la situation ainsi. Je flottais parmi les étoiles, sans tomber toutefois. Je ne pensais pas, je ne m'étonnais pas, je me trouvais là simplement. Il y avait un astre plus brillant que les autres, et j'étais attiré vers lui. Je n'aurais su affirmer si je me dirigeais vers lui ou s'il se rapprochait de moi. Je n'aurais rien su affirmer car, bien que j'eusse conscience de ces événements, il ne s'y attachait aucun sens. Je me sentais comme en suspens, toute vie, toute curiosité, toute émotion à l'arrêt. Quand j'arrivais près de l'étoile, j'essayais de m'y fixer. Cet acte ne parut exiger nulle volonté, nulle intention de ma part. On eût plutôt dit la fusion naturelle d'une goutte d'eau dans une autre, plus grosse. Mais elle m'écarta d'elle, et en cet instant où elle m'observa, je repris la conscience de mon individualité.
« Quoi ? Toi, de nouveau ? Tiens-tu donc tant à demeurer ici ? Tu es beaucoup trop petit, tu sais, et encore incomplet. Il n'y a pas assez de toi pour subsister seul ici. Le sais-tu ?
Sais-tu ? Comme un enfant qui apprend à parler, je répétais les derniers mots en m'efforçant d'y plaquer une signification. La bienveillance de l'entité à mon endroit me fascinait, et je n'aspirais qu'à m'y immerger. Elle me semblait pétrie d'amour, prête à m'accepter tel que j'étais. Je n'avais qu'à renoncer à mes limites si elle me laissait faire pour me fondre en elle. Toute connaissance, toute pensée, toute peur disparaîtrait alors. Elle parut me comprendre sans que j'eusse à parler. Est-ce cela que tu souhaites vraiment, petite créature? Cesser d'être toi-même avant ton achèvement? Pourtant, tu peux encore tellement grandir.
Grandir, fis-je en écho.
Tout à coup, ce simple mot prit force, et j'existais à nouveau. Soudain, pendant une fraction de seconde, je connus une lucidité totale, comme si je remontais d'une plongée à très grande profondeur, et venais de remplir à fond mes poumons d'air frais. Molly et Horty, devoir et heure, patience et lourd, Imbre et Kétriken, tous me revinrent en une vague de possibilités. La peur et l'espoir s'empoignèrent violemment en moi quant à ce que je pouvais devenir à travers eux.
« Ah, je pensais bien que tu tenais encore à quelque chose. Tu désires donc t'en retourner ?»«
Retourner ?
Où ?»«
Castelser, Molly, Horty, ami. »
Ces mots n'avaient sans doute aucune signification pour elle. Elle était au-delà de cela, de cette attribution de l'amour à quelques individus, à quelques endroits, mais je crois qu'elle perçut ma nostalgie.
« D'accord, retourne-t'en. La prochaine fois, fais plus attention, ou mieux, tâche qu'il n'y ait pas de prochaine fois, tant que tu n'es pas prêt à rester. »
Brutalement, j'eus un corps. J'étais couché, face contre terre, sur le versant d'une colline. Il faisait froid. Par miracle, je n'avais pas lâché les deux sacs que j'avais jetés sur mon épaule, et ils pesaient sur mon dos. Je fermais les yeux. L'herbe me chatouillait le visage, et j'avais de la poussière dans les narines. Je respirais le mélange intime d'odeurs de terre, d'herbe, de moutons et de fumier, et la stupéfaction qui s'empara de moi devant ce réseau complexe effaça toutes mes pensées. Je dus m'endormir. L'aube se levait quand je me réveillais. Je tremblais de froid malgré la protection des sacs de parchemin étalés sur mon dos. J'avais les articulations raides et j'étais couvert de rosée. Je me redressais, avec un grognement d'effort. Le monde se mit à danser lentement devant mes yeux, et je dus me rallonger. Des moutons couverts d'une épaisse toison avaient levé la tête, surpris de me voir bouger. Je me mis à quatre pattes, me relevai en chancelant, puis jetai des coups d'œil égarés autour de moi, comme un poulain nouveau-né, tout en m'efforçant de rassembler les pièces disjointes de mon existence. J'aspirai l'air à longues goulées, sans amélioration notable de mon état. Un bon repas et un vrai lit me remettraient sans doute d'aplomb, et je trouverais cela au château de Castelserre. Un sac sur mon épaule, l'autre traînant derrière moi, je me mis en marche, du moins, telle fut mon intention. Mais, au bout de trois pas, je m'effondrai encore plus mal, si cela est possible, qu'à ma sortie des piliers. À contre-cœur, je dus reconnaître que Prilcop avait raison, et je me demandais avec anxiété combien de temps je devrais attendre avant de risquer un nouveau trajet par les pierres. Toutefois, j'avais des problèmes plus immédiats à résoudre. Je tendis mon art tant bien que mal. J'avais à peine la force de me concentrer, et quand je perçus d'abord la musique de lourd, puis le petit homme lui-même, il était déjà occupé à communiquer avec Devoir et Imbre. Je voulus m'introduire dans leur contact, mais n'y parvins pas. Leurs pensées repoussaient les miennes comme une grêle de pierre. Ils ne paraissaient pas échanger d'informations. On eût dit plutôt qu'ils travaillaient à un exercice d'art. Je sentis la présence d'Ortie comme une trace de parfum dans l'air. Elle s'agrippa au lien entre Imbre et Lourd, réussit à y rester accrochée un instant, puis lâcha prise et s'éloigna doucement. Dans le silence déçu qui suivit son échec, malgré ma faiblesse, je parvins à m'immiscer. « Lourd, je ne suis pas bien. Peux-tu venir me retrouver au pire témoin? Amène un poney ou même une carriole attelée. Je ne sais pas si je tiendrai en selle. J'ai deux gros sacs de parchemin. » Une explosion de stupéfaction muette accueillit mon intervention, à laquelle succéda aussitôt une pluie de questions.
« Où es-tu ?
Où étiez-vous ?
Tu es blessé, on t'a attaqué ?
Retenu prisonnier ?
J'ai seulement traversé les pierres. Je n'ai plus de force, envie de vomir. Prilcop m'avait prévenu. Ne pas utiliser les piliers trop souvent. Puis je me tus. Malade à en mourir, en proie au vertige et à la nausée, je me laissai aller sur le flanc. Il faisait froid. Je tirai un sac sur moi et restai allongé, tremblant de tous mes membres. Ils vinrent tous. J'entendis des bruits, ouvris les yeux et découvris les chaussures et la jupe de mon Ortie. Un guérisseur me palpait en quête de fracture et examinait mes yeux. Ses attouchements m'agaçaient. Il voulut savoir si l'on m'avait agressé. Je réussis à secouer la tête négativement. Imbre dit
« Demandez-lui où il avait disparu tout ce mois dernier. Nous attendions ces manuscrits bien avant notre arrivée à Castelserre. »
Je fermai les paupières et me tus. Alors le guérisseur et son assistant me soulevèrent et me déposèrent à l'arrière d'un chariot. On plaça les sacs de parchemin à côté de moi, puis la voiture se mit en route, en brinque-ballant sur les mottes d'herbe de la colline. À cheval, Imbre et Devoir la flanquaient d'un côté, l'air grave. Lourd venait derrière sur un poney trapu dont il se débrouillait assez bien. Ortie chevauchait une jument manifestement issue de l'écurie de Burick. Plusieurs gardes montés nous suivaient avec le regard vigilant de soldats qui s'attendaient à devoir affronter un ennemi, même peu dangereux, et qui nourrissent encore le vague espoir d'une escarmouche. J'avais parlé le moins possible, de crainte d'en révéler trop à des oreilles qui ne devaient rien savoir. Mes pensées tournaient sans fin, et, à force de piétiner comme un attelage embourbé, mon esprit fit remonter de ma mémoire de vieilles légendes sur les pierres dressées. Des amants s'y réfugiaient pour échapper aux courroux de leurs parents, et quand ils revenaient, un an ou 10 ans plus tard, toutes les aigreurs avaient été oubliées. On les tenait pour les portes qui permettaient d'entrer au pays des fées, où une année pouvait passer en un jour, ou un jour en un an. Je gardais un souvenir brumeux de mon séjour dans les ténèbres étoilées. Quelle avait été sa durée ? Quelques semaines. Imbre
avait parlé d'un mois. À l'évidence, il s'était écoulé assez de temps pour que les bateaux de retour de Maïlé eussent regagné Castelserre, puisque le prince et son conseiller se trouvaient près de moi. Je souris légèrement, fier de ma logique et de mon agilité intellectuelle. Quand nous parvînmes au château, Imbre emmena les gardes et prit les sacs de manuscrits. Le prince me serra la main et me remercia d'avoir mené à bien ma tâche, comme il l'eût fait à un homme d'armes qui aurait accompli une mission au péril de sa vie. Mais profitant de notre contact physique, il m'artisa si discrètement que je l'entendis à peine. « Je passerai bientôt vous voir. Reposez-vous pour le moment. » Il s'éloigna à grands pas, orti et lourd sur les talons, et l'on me conduisit à l'infirmerie, où, à ma vive satisfaction, je pus m'étendre et ne plus penser à rien. Plusieurs jours s'écoulèrent, me semble-t-il. J'avais du mal à me concentrer sur des détails comme le passage du temps. Migraine et vertige finirent par cesser, mais mon esprit resta flou. J'avais été quelque part, rencontré quelque chose d'immense, je le savais, mais je ne trouvais pas les mots pour l'expliquer, fût-ce à moi-même. C'était un événement si grand et si incompréhensible qu'il bouleversait la signification et l'ordre du reste de ma vie. Je me laissais distraire par de petits riens. La danse des moucherons dans un ray de soleil, le tissage de la laine filée qui formait ma couverture, le grain du bois de mon chalit. Je restais parfaitement en mesure d'artiser, mais je n'en voyais plus l'intérêt, et je n'avais plus l'énergie ni la capacité d'attention nécessaire pour y parvenir. On m'apportait de copieux repas, et on me laissait me reposer. Les visiteurs allaient, venaient, je n'en gardais quasiment aucun souvenir. Une fois, j'ouvris les yeux et vis Brodette qui me regardait avec une expression sévère et réprobatrice. Je les refermais. Le guérisseur ne pouvait rien pour moi et répétait souvent, en parlant bien fort non loin de mon chevet, qu'il me considérait comme un simulateur et un tir au flanc. On fit venir une très vieille femme. Quand elle eut croisé mon regard, elle hocha vigoureusement la tête et déclara
« Oh oui, il a la tête d'un que les fées ont mordu. Elles l'ont entraîné sous la terre et se sont nourries de lui. » Elles ont un trou là-haut, près des pierres témoins, c'est bien connu. Elles enlèvent des agnolets, des enfants et des fois même des hommes faits s'ils vont se promener par là ivre mort.
Elle prit un air doctoral.
Donnez-lui du thé à la menthe et des plats aillés jusqu'à ce que l'odeur lui en sorte par les pores. Les fées ne la supportent pas et elles le lâcheront sans tarder. Quand il aura les ongles assez longs pour qu'on les coupe, et qu'il les coupera lui-même, laissez-le sortir. »
On me fit donc manger un repas de mouton à l'ail, accompagné de thé à la menthe. On me déclara guéri, et on me mit à la porte. Crible m'attendait et me dit que j'avais l'air d'un simple d'esprit. Il m'emmena aux étuves, encombrées de soldats bruyants qui riaient beaucoup trop fort. Puis, suprême purification pour un garde, au réfectoire, parmi les tables réparties dans le plus grand désordre, où il n'eut aucun mal à me persuader de boire avec lui tant de bière que je finis par sortir d'un pas titubant pour vomir dehors. Le brouhaha assourdissant des conversations et des éclats de rire me donnait une singulière impression de complet isolement. À 6 reprises, un jeune garde me demanda où j'avais disparu pendant le mois écoulé, et je finis par répondre simplement « Je me suis perdu en revenant. » Ce qui me valut pendant près d'une heure une solide réputation d'humoriste autour de la table. Si le gamin avait espéré m'arracher ainsi le récit de mon escapade, il échoua. En revanche, à mon propre étonnement, je me sentais mieux. Comme si la violente protestation de mon corps contre le traitement que je lui faisais subir m'avait convaincu que j'étais bel et bien humain et que je devais en tenir compte. Je me réveillais le lendemain matin dans les casernements, poisseux de sueur, fronçais le nez en sentant l'odeur aigre que je dégageais et retournais aux étuves. Je rasais la barbe collante qui me mangeait les joues, me frottais de la tête aux pieds avec du sel, puis me rinçais à l'eau froide. J'enfilais un uniforme propre, car mon coffre était revenu avec le reste du matériel de l'expédition, et allais prendre un petit déjeuner simple et frugal de gruau dans une salle des gardes bondée et bruyante. Par la porte, un vacarme d'instruments métalliques entrechoqués donnait l'impression qu'une bataille rangée se déroulait dans les cuisines et que des compagnies entières de marmitons s'attaquaient à leurs tâches. Ayant un peu repris du poil de la bête, J'empruntai la porte dérobée de la cour des Lavandières pour entrer dans le labyrinthe d'Imbre, et je montai à la salle de travail. Je trouvai la grande table couverte de manuscrits imprégnés d'huile, maintenus ouverts pour les nettoyer et les recopier. Près des fauteuils de la cheminée, on avait déposé un panier rempli de pommes fraîches. Elles n'étaient même pas assez mûres pour qu'on les cueillît la dernière fois que j'avais pénétré dans la salle. Ce petit fait sans importance m'ébranla plus que je ne m'y attendais. Je m'assis, me concentrai et artisai Imbre.
« Où êtes-vous ? Je dois vous présenter mon compte-rendu. J'ai besoin qu'on m'aide à comprendre ce qui m'est arrivé. »
« Ah ! Je me réjouis de t'entendre. J'écouterai ton rapport avec le plus grand intérêt. Nous sommes dans la tour de vérité. Peux-tu monter, nous y rejoindre ?»«
Je pense, oui, mais pas vite. Il faudra m'attendre un peu. »
Je réussis à monter, mais il dut effectivement prendre patience. Quand je sortis par le panneau latéral de la cheminée, j'éprouvai un choc, car je découvris Dame Ortie, Dame Ortie, irréfutablement, au vu de sa robe verte et de son col de dentelle, assise à la grande table en compagnie d'Imbre, Devoir et Lourd. Elle ne parut, de son côté, que modérément surprise de mon apparition. J'écartai une toile d'araignée de mes yeux, puis secouai la main au-dessus de l'âtre pour m'en débarrasser. Enfin, ne sachant quel rôle endosser, je m'inclinai poliment devant l'assemblée à la manière d'un garde, puis demeurai immobile, comme prêt à recevoir mes ordres.
« Comment allez-vous ? » me demanda Devoir, en m'offrant son bras pour m'aider à gagner ma place.
Mon orgueil m'empêcha de l'accepter, et une fois assis, je restai incertain quant à l'attitude que je devais adopter. Imbre remarqua les coups d'œil furtifs que je lançais à Ortie, et il éclata de rire.
« Fitz, elle fait partie désormais du clan. Tu devais bien te douter que ça arriverait. »
Je me tournai vers ma fille. Le regard qu'elle me rendit valait un coup de poignard, et sa voix avait la froideur et le tranchant de l'acier.
« Je sais votre nom, Fitz Chevalerie Loinvoyant. Je sais même que je suis votre fille bâtarde. Ma mère m'a dit qu'elle ne connaissait aucun Tom Blaireau, voyez-vous. Aussi, pendant votre séjour à l'infirmerie, elle a rendu visite à celui qui se prétendait lié à elle par une vieille amitié. Puis, elle est ressortie et m'a tout avoué.
Tout.
Elle ne sait pas tout,
répondis-je d'un ton défaillant. Et tout à coup, je me trouvai à court de mots. Imbre se leva promptement, remplit un verre d'eau-de-vie et me l'apporta. Je tremblais si fort que j'eus peine à le porter à mes lèvres.
On peut dire que votre mère a choisi pour vous le prénom qui convenait,
dit Devoir d'un ton acide, à l'attention d'Ortie.
Comme la vôtre,
rétorqua-t-elle, suave.
Assez, vous deux! Remisez vos querelles pendant que Fitz nous raconte où il se cachait, tandis que les gardes passaient leur royaume entier au peigne fin pour le retrouver.
Imbre s'exprimait avec fermeté.
Molly est ici, à Castelser.
Tout le monde est là? « Tout le monde est venu pour la fête des moissons ce soir !»
répondit Lourd avec un accent de grande satisfaction.
« Moi, j'ai de prétoire à pommes !»
Oui, ma mère se trouve ici, mes frères aussi, qui ignorent tout de notre affaire. Elle et moi jugeons préférable que cela ne change pas. Ils doivent leur présence au château à l'hommage qui sera rendu à mon père pour le rôle qu'il a joué dans la mort du dragon, ainsi qu'à l'Est et au reste du clan d'Ar.
Tant mieux. « Ça me fait plaisir, » dis-je avec sincérité. Et pourtant, mes paroles sonnèrent creux. Apprendre que la fête des moissons avait lieu le lendemain m'avait certes choqué, mais surtout j'avais l'impression qu'on m'avait dépouillé de ma dignité, que je n'étais plus maître de mon existence, et je m'en sentais bizarrement libéré. On m'avait retiré la responsabilité de décider quand et comment révéler à Molly que j'étais vivant. Elle m'avait vu, elle le savait. Peut-être le coup suivant lui revenait-il. La pensée qui me vint alors me plongea dans un abîme de désespoir. Ce coup, peut-être l'avait-elle déjà effectué. Elle m'avait tourné le dos.
Fitz ?
Je me rendis compte qu'Imbre m'appelait depuis quelque temps quand il me toucha le bras. Je sursautai et repris conscience des gens autour de la table. Devoir avait une expression compatissante, Ortie distante, et Lour avait l'air de s'ennuyer. Imbre posa la main sur mon épaule et la pressa doucement.
« Veux-tu expliquer au clan où tu étais et ce qui t'est arrivé? J'ai quelques idées là-dessus, mais j'aimerais les voir confirmées. »
Par habitude, j'entamais mon récit à la dernière fois que nous avions été en contact, lui et moi. J'en étais au moment où le fou et moi allions pénétrer dans la grotte de l'homme noir quand j'éprouvais une soudaine répugnance à révéler tout ce que mon ami avait dit. Je baissai les yeux vers mes mains posées sur la table et résumai ses propos en omettant autant de détails intimes que possible. De ceux qui m'entouraient, seul Imbre, peut-être, eut une vague idée de la souffrance que représentait pour moi de me séparer du fou. Sans réfléchir, je dis tout haut, « Mais je ne suis pas retourné sur l'île, et, d'après ce que vous m'avez appris, mon absence a duré plus d'un mois. Je voudrais repartir, mais j'éprouve maintenant, à l'endroit des piliers, une peur nouvelle. »
« Et à juste titre, si j'en crois les manuscrits d'art que tu as rapportés. Toutefois, nous en reparlerons plus tard. D'abord, la fin de ton histoire. »
Je narrai donc mon départ de la grotte, la récupération des parchemins et la mise au rebut du cadavre de la femme pâle. Imbre manifesta un vif intérêt pour la magie qui permettait aux anciens de générer de la lumière et de la chaleur, et me posa sur les cubes de pierre de mémoire d'innombrables questions auxquelles je fus incapable de répondre. Déjà, je le vis bien, l'envie le démangeait de tenter le voyage pour explorer lui-même ce royaume enchanté. Je relatais l'adieu de Prilcop, puis mon interminable traversée des piliers. Quand je parlais de l'entité qui m'avait secouru, Devoir se redressa sur son siège.
« C'est la même que nous avons rencontrée en fuyant la plage des autres ?»«
La même, oui et non. Je crois que, cette fois-là, seul notre esprit se trouvait dans son univers. Dans les piliers, j'étais présent physiquement. Depuis mon retour, je me sens bizarre, plus vivant par certains aspects, plus en relation avec le reste du monde, jusqu'à ses plus infimes éléments, et pourtant plus isolé aussi. Je me tus. Je ne voyais pas quoi ajouter à mon compte-rendu. Je lançai un coup d'œil à Ortie. Elle me retourna mon regard avec une expression impavide qui me disait que je n'avais pas et n'avais jamais eu la moindre importance à ses yeux. Apparemment, Imbre estimait avoir suffisamment matière à réflexion, car il écarta sa chaise de la table comme un homme qui vient d'achever un repas copieux.
« Eh bien, il va nous falloir de longues ruminations pour y voir clair dans ce récit. Assez d'exercices pour aujourd'hui. La fête des moissons est pour demain, et nous avons tous des préparatifs à faire. Un rassemblement est prévu ce soir dans la grande salle, avec des musiciens, des jongleurs, un bal et des conteurs. Nombre de nos amis outréliens y participeront, ainsi que tous nos ducs. Je vous y retrouverai tous, je n'en doute pas. »
Comme tous le regardaient sans faire mine de bouger, il ajouta
« Et j'aimerais m'entretenir à présent seul à seul avec Fitz. »
Lour se leva, Ortie aussi. « Après que je lui aurais parlé en privé, » dit Devoir d'un ton posé. Lour parut perplexe, mais déclara aussitôt
« Moi aussi. »
« Pas moi, » fit Ortie d'un ton froid, en se dirigeant vers la porte. « Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais avoir à dire à cet individu. » Le simple d'esprit resta sur place, regardant tour à tour la jeune fille et le prince, visiblement en proie à l'indécision. Non sans mal, je parvins à lui sourire. « Nous aurons tout le temps de nous voir après, Lour, je te le promets. »«
D'accord, »
fit-il brusquement. Il rattrapa la porte avant qu'elle ne se fût complètement refermée derrière Ortie, et sortit à son tour. Sur un coup d'œil de Devoir, Imbre se retira près de la fenêtre qui donnait sur la mer. Mais, à l'évidence, ce n'était pas ce que désirait le prince. Il était clair aussi que la lutte pour le pouvoir se poursuivait entre le conseiller et l'héritier de la couronne. Je me tournai vers Devoir. Il prit place sur la chaise à côté de la mienne, puis la rapprocha de moi. Il se pencha et je m'attendis à l'entendre évoquer ses inquiétudes concernant la Narcheska et leurs fiançailles. « J'ai beaucoup parlé de vous avec elle. Elle vous en veut pour le moment, mais je pense que si vous lui laissez un peu de temps,
Elle finira par se calmer assez pour vous écouter. » Il me fallut quelques secondes pour comprendre. « Orti. »
« Naturellement. »
« Vous avez beaucoup parlé de moi avec elle. » « De mieux en mieux, me dis-je aigrement. Devoir perçut mon désarroi. »
« Je ne pouvais pas faire autrement, » répondit-il sur la défensive. Elle tenait sans cesse des propos comme « Il a abandonné ma mère enceinte et il n'est jamais venu me voir. » Je ne voulais pas qu'elle répande de pareilles affirmations, ni surtout qu'elle les croie elle-même. Je lui ai donc révélé la vérité, comme vous me l'avez exposée à moi.
« Fitz, » reprit-il quelques instants plus tard. « Oh, pardon, merci. » Je ne me rappelais même plus dans quelle cogitation mon esprit s'était égaré.
« Ses frères vous plairont, vous verrez, autant qu'à moi.
Chevalerie joue un peu les importants, mais je pense que c'est une façade pour cacher sa peur devant les bouleversements de sa vie. Agile est on ne peut plus différent de l'Est. Je n'ai jamais vu des jumeaux aussi dissemblables. Calme porte bien son nom, tandis que Juste bavarde sans arrêt, comme une pie. Quant à Âtre, le plus jeune, il passe son temps à courir partout, à rire et à essayer de se battre avec ses frères et Orti. Il n'a peur de rien, ni de personne.
Et ils sont tous au château pour la fête des moissons.
Sur l'invitation de la reine, pour la distinction à laquelle aura droit l'Est et l'hommage qu'on rendra à Burik.
Oui, évidemment.
Je regardais la table entre mes mains. Avais-je ma place dans cette famille? Ma foi, je crois vous avoir dit ce que je voulais. Je suis heureux de vous voir en voie de rétablissement. Je pense qu'Orti finira par mettre de l'eau dans son vin, si vous lui laissez le temps. Elle a le sentiment d'avoir été flouée, comme je vous en avais prévenu. Ça vous semblera peut-être étrange, mais j'ai l'impression que c'est votre brusque disparition qui l'a fâchée le plus. Elle s'est sentie visée. Ne me demandez pas pourquoi. Mais le temps aidant, je suis convaincu qu'elle reverra son opinion sur vous.
Je crains de n'avoir guère le choix de toute façon.
En effet. Mais je ne voulais pas que vous désespériez. Baissiez les bras et alliez vous terrer et d'assez haut pour éviter de la croiser. Votre place est à Castelserre désormais, et la sienne aussi.
Merci.
Il détourna le regard. Je ne saurais exprimer l'importance qu'a pour moi sa présence à la cour. J'aime sa brutale franchise. Je n'ai jamais eu d'amis comme elle. Je suppose que ça tient à notre lien de parenté. J'acquiesçais. J'ignorais jusqu'à quel point ses propos reflétaient la réalité, mais je m'en réjouissais tout de même. Si Orti bénéficiait de l'amitié du prince, elle avait un puissant protecteur à la cour.
Je dois vous laisser. J'ai manqué les deux dernières séances d'essayage pour les vêtements que je dois porter à la fête. Et les domestiques s'en prennent à lourd. Ils le piquent avec leurs aiguilles par accident, si je ne suis pas là pour le défendre. Mieux vaut donc que j'y aille.
J'acquiesçai encore une fois de la tête. Tout à coup, le silence tomba dans la pièce. Devoir était sorti et avait refermé la porte derrière lui, sans même que j'y prête attention. Humbre posa d'un geste ferme une timbale d'eau-de-vie devant moi. Je la regardai un instant, puis levai les yeux vers lui.
« Tu risques d'en avoir besoin, »
fit-il avec douceur. Puis vint la révélation.
« Le fou était ici il y a 2 semaines. Je donnerais cher pour apprendre comment il se débrouille pour entrer dans le château et en sortir sans se faire voir. Mais quoi qu'il soit, il y arrive. J'ai entendu frapper à la porte de mon salon privé. » Un soir, très tard, et quand j'ai ouvert, je me suis trouvé nez à nez avec lui. Il avait changé, naturellement, comme tu l'avais dit, brun de la tête aux pieds, comme un pépin de pomme. Il avait l'air fatigué, un peu malade, mais seulement, je pense, à cause de son trajet par les piliers. Il n'a pas parlé de l'homme noir, ni de rien, d'ailleurs, à part toi. À l'évidence, il s'attendait à te trouver ici, et je t'avoue que j'ai eu peur. »
Je replaçai le gobelet d'alcool sur la table. Sans même me le proposer au préalable, Humbre le remplit.
« Quand je lui ai appris que nous ne t'avions pas vu, il apparut abasourdi. Je lui ai expliqué que nous avions mené des recherches minutieuses et que j'avais formulé à part moi l'hypothèse que tu étais parti avec lui. Il m'a demandé si nous avions essayé de te contacter par là.
J'ai répondu que nous avions naturellement tenté cette approche, mais qu'elle n'avait rien donné. Il m'a fourni le nom d'une auberge où il comptait séjourner pendant les jours à venir et prié d'envoyer un coursier le prévenir aussitôt si j'avais des nouvelles de toi. À la fin de la semaine, il est revenu. Il avait vieilli de 10 ans. Il m'a révélé qu'il avait mené son enquête de son côté, sans aucun résultat. Ensuite, il m'a dit qu'il devait partir, mais souhaitait d'abord me confier un dépôt à ton attention. Nous ne pensions ni l'un ni l'autre que je te le remettrais un jour. Sans que j'eusse à l'en prier, il apporta un manuscrit scellé à peine plus gros que le poing d'un enfant et un petit sac en tissu des anciens. Je le reconnus. Il avait été découpé dans la robe cuivrée. Je les regardais, mais ne les touchais pas. A-t-il dit quelque chose? À titre de message à mon adresse?
Je pense que c'est la fonction de ces objets.
J'acquiesçai de la tête.
Earl est venu te voir pendant ton séjour à l'infirmerie. Le savais-tu?
Non. Comment avait-il appris ma présence?
Je crois qu'il passe de longues heures à la taverne des ménestrels ces derniers temps. Pendant que nous te cherchions, nous avions naturellement prévenu les gens de cette profession. Nous étions à l'affût de la plus petite rumeur te concernant. Aussi, n'ignorait-il pas que Tom Blairot aurait dû se trouver à Castelserre, mais ne s'y trouvait pas. Puis, lorsque tu es réapparu, les ménestrels en ont eu vent aussitôt. C'est donc par eux qu'il l'a appris. Tu devrais aller le voir sans tarder pour le rassurer.
Il fréquente souvent cette taverne?
À ce qu'il paraît, oui.
Sans lui demander par quel moyen ni pour quel motif, le conseiller de la reine se tenait au courant des habitudes d'un apprenti menuisier, je dis simplement « Merci d'avoir veillé sur lui. »
« Je te l'avais promis. Hélas, je ne m'en suis pas très bien acquitté. Fitz, je regrette d'avoir à te le dire, mais à ce que j'ai compris, j'ignore les détails, il a eu des ennuis en ville et perdu son apprentissage. Il vit avec les ménestrels depuis. »
Je secouai la tête, accablé. J'aurais dû me soucier davantage de lui. Manifestement, il fallait le reprendre en main. Je décidai de quérir auprès d'Astéril les renseignements qui me permettraient de savoir où le trouver. Je me reprochais ma négligence. Je ne m'étais pas occupé de lui comme il le fallait quand j'en avais l'occasion. Vous avez d'autres nouvelles à m'annoncer?
Dame Patience m'a donné un solide coup d'éventail quand elle a découvert que tu avais passé plusieurs jours à l'infirmerie sans que nul l'en prévienne.
Je ne puis m'empêcher d'éclater de rire. En public?
Non, elle a acquis un certain sens de la discrétion avec l'âge. Elle m'a convoqué dans ses appartements privés. Brodette m'a ouvert, fait entrer et offert une tasse de thé. Puis Patience est arrivée et m'a flanqué un grand coup d'éventail.
Il se frotta le crâne au-dessus de l'oreille et ajouta d'un ton lugubre.
« Tu aurais pu me prévenir qu'elle te savait vivant et dans la peau d'un garde, ce qu'elle juge du plus extrême mauvais goût à propos. »
« Je n'en ai pas eu le loisir. »« Dites-moi, m'en veut-elle ? » ?»«
Évidemment, mais pas autant qu'à moi. Elle m'a traité de vieille araignée et menacé de me faire donner le fouet si je ne cessais pas de me mêler des affaires de son fils. Comment a-t-elle pu établir un rapport entre toi et moi ? »
Je secouai lentement la tête. Elle en a toujours su davantage qu'elle n'en laissait paraître.
En effet, c'était déjà le cas du vivant de ton père.
Eh bien, j'irai la voir elle aussi. Apparemment, mon existence reste aussi compliquée qu'avant. Et, d'un point de vue plus large, comment se présente la situation à Castelserre?
Ton plan a réussi dans l'ensemble. Les ducs qui n'avaient pas accompagné le prince lors de son voyage dans les îles d'outre-mer sautent sur l'occasion de passer des marchés commerciaux avec les Caempra qui arrivent chez nous. Certains pensent que les profits éventuels suffiront à persuader le Hedgurd de mettre un terme aux attaques des pirates. J'ignore si cette assemblée détient l'autorité nécessaire pour cela, mais si tous les ducs déclarent avec fermeté que les traités de négoce sont soumis à la cessation des hostilités, ils peuvent obtenir gain de cause. On parle même, ça t'étonnera peut-être, de propositions de mariage entre aristocratie des six duchés et clans outriliens. Jusqu'ici, il s'agit uniquement de Caempra qui offre de se joindre à nos maisons maternelles. et nous avons dû prévenir nos compatriotes que le mariage, chez nos amis, n'est parfois pas conçu comme aussi définitif que chez nous. Mais certaines unions resteront peut-être stables. Plusieurs de nos nobles ont des fils cadets à proposer aux clans outridiens. »
Il se laissa aller contre son dossier et se versa une rasade d'eau-de-vie.
« Avec de la chance, nous aurons une paix durable, Fitz. La paix avec les îles d'outre-mer. Franchement, je n'aurais pas cru voir ça de mon vivant. »
Il but une gorgée d'alcool et reprit.
« D'un autre côté, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué. Il reste du chemin à parcourir. J'aimerais que Devoir soit proclamé roi servant avant la fin de l'hiver. Mais ça risque de demander un peu de travail. » Ce garçon est impulsif et impétueux. Je lui répète sur tous les tons que la couronne repose sur la tête du roi, non sur son cœur, né plus bas. Il doit montrer devant ses ducs la pensée mesurée d'un homme, la vie réfléchie d'un souverain, non les passions d'un adolescent. Labour et Bauge ont déclaré tous deux préférer attendre qu'il se marie ou qu'il prenne le temps de mûrir encore quelques années avant de le reconnaître comme roi servant.
Je poussai ma timbale vers lui et il la remplit de nouveau. « Vous ne dites rien des dragons. Ils n'ont donc causé aucun problème ?» Il eut un sourire mi-figue, mi-raisin.
« Je crois que nos compatriotes des Siduchés sont un peu déçus de n'en avoir même pas aperçu la plus petite écaille. Ils auraient été ravis de voir Glacefeu défoncer nos portes pour offrir sa tête à notre reine. Du moins le croit-il. En ce qui me concerne, la situation me convient parfaitement. » De loin, les dragons font de merveilleuses et nobles créatures de légende. De près, mon expérience personnelle m'incite à penser qu'ils laisseraient échapper un merveilleux et noble roi après m'avoir avalé tout rond.
Selon vous, ils auraient donc repris la route de Terrilleville ?
Assurément pas. La semaine dernière, nous avons reçu un message des marchands qui s'enquéraient de Tintaglia. Au ton de la missive, je ne saurais dire s'ils s'inquiétaient de son bien-être ou du fait qu'ils se retrouvaient seuls pour alimenter plusieurs dragons cloués au sol. J'allais leur répondre que nous ignorions tout de leur sort après le passage de Glacefeu à la maison maternelle du Narval quand Torti est intervenu. Tintaglia et Glacefeu étaient occupés à manger et à s'accoupler et passaient tout leur temps à ces deux activités. Elle n'a pas pu nous indiquer où il batifolait. Son contact avec Tintaglia reste intermittent, et la géographie telle que la conçoit un dragon n'a guère de rapport avec la nôtre. Mais ils chassaient des ours de mer. Ils doivent donc se trouver au nord de chez nous. Ils risquent même de nous survoler s'ils décident de retourner à Terrilleville.
J'ai le pressentiment que nous entendrons encore parler d'eux. Mais pour revenir à l'intérieur de nos frontières, a-t-on réussi à régler tout ou partie de la question du lignage ?
« Ces membres ont fait couler beaucoup de sang pendant notre absence. Plusieurs duchés ont subi un choc quand on a découvert que le vif existait dans la noblesse de façon beaucoup plus fréquente qu'on ne le reconnaissait jusque-là. Une rumeur a même couru sur célérité de Béarn, selon laquelle elle partageait l'esprit de son faucon. Quel scandale ! Ces révélations éclatent au plus fort des hostilités, où chaque vengeance mène à de nouvelles tueries. » Ketriken a le plus grand mal à maintenir l'ordre. Mais pour résumer, le lignage semble avoir fait le ménage à fond et débarrassé sa maison de l'infection des pies. Tram était horrifié des nouvelles qu'il a reçues à notre retour, et il presse plus que jamais le lignage de se montrer au grand jour et d'adopter une attitude respectable. Dans un certain sens, les effusions de sang de ces derniers mois constituent un échec pour lui, et tu goûteras l'ironie, il suggère l'établissement d'une commune réservée aux vifiés, où ils pourront faire la démonstration de leur industrie et de leur civilité, ce qu'ils refusaient naguère par crainte d'un massacre général. Il le propose aujourd'hui comme moyen de faire la preuve qu'ils sont inoffensifs, si on ne les provoque pas. La reine y réfléchit en ce moment même. Le lieu d'implantation exigera de longues négociations. Beaucoup redoutent le vif, bien plus qu'avant désormais.
Ma foi, il faut bien s'attendre à quelques années croches, mais au moins tout se passera au grand jour. Je restai un instant songeur. C'est l'hérité de Béarn, doué du vif, je n'y croyais pas. Pourtant, rétrospectivement, je ne pouvais avoir aucune certitude.
« Et le seigneur Fitz Chevalerie loin voyant. apparaîtra-t-il enfin, au grand jour, lui aussi ?
Seulement, Seigneur, il me semblait que je devais devenir roi. Puis j'éclatai de rire, car jamais je n'avais vu Humbre l'air aussi effaré.
Non,
repris-je, non, je pense que je laisserai le Seigneur Fitz-Chevalerie loin-voyant reposer en paix. Ceux à qui je tiens savent qui je suis. C'est tout ce qui compte.
Le vieux conseiller hocha la tête. Je pourrais te souhaiter un dénouement à la mode des ménestrels, entouré d'amour et de nombreux enfants, mais je n'y crois guère.
Vous n'y avez pas eu droit non plus. Il me dévisagea puis détourna les yeux.
Je t'avais, toi. Sans toi, peut-être aurais-je fini comme une vieille araignée sans être jamais sortie de derrière mes murs. Y avais-tu songé?
Non, jamais.
J'ai du travail, dit-il brusquement.
Puis, en se levant, il posa la main sur mon épaule et demanda.
Ça ira?
Aussi bien qu'on peut l'espérer, répondis-je.
Alors je te laisse.
Il me regarda et ajouta. Tâche de te montrer plus prudent, veux-tu?
J'ai passé de mauvais moments pendant ton absence. J'ai d'abord imaginé que tu avais fui Castelserre et les devoirs de ton sang, puis, après le passage du fou, je t'ai cru mort, encore une fois.
Je prendrai soin de moi-même, comme vous de vous-même, promis-je. Il leva les sourcils, puis hocha la tête. Après son départ, je restai un moment sans bouger, les yeux fixés sur le petit paquet et le parchemin. Puis, j'ouvris ce dernier et reconnus aussitôt l'écriture soigneuse du fou. Je le lus à deux reprises. C'était un poème sur la danse, un poème d'adieu aussi. À l'évidence, il l'avait écrit avant d'apprendre ma disparition. Il n'avait donc pas changé d'avis par la suite. Prilcop et lui n'avaient fait halte à Castelserre que pour me revoir une dernière fois, non à cause d'un revirement de cœur. Des bosses déformaient le sachet qui pesait relativement lourd. Quand je dénouai le tissu glissant, un morceau de pierre de mémoire de la taille de mon poing roula sur la table. J'aurais juré que le fou l'avait taillé de ses doigts nus enduits d'art. Je le touchai prudemment du bout de l'index, mais ne sentis rien d'autre que le contact avec un bloc froid. Je le levai afin de l'examiner. Il possédait trois faces qui se fondaient chacune dans sa voisine. Œil de Nuit était là, moi aussi, ainsi que le fou. Le loup me regardait, les oreilles dressées et le museau baissé. Sur la facette d'à côté, je me vis jeune homme, sans balafre sur le visage, les yeux agrandis et la bouche entrouverte. Avais-je vraiment eu un jour l'air aussi juvénile? Enfin, le fou s'était représenté sous les traits d'un bouffon, coiffé d'un bonnet à pointe. Un long doigt posé sur ses lèvres tendues par une légère moue, les sourcils haussés comme à la chute d'une plaisanterie. C'est seulement quand je pris la sculpture au creux de ma main qu'elle s'éveilla et me révéla les souvenirs dont le fou l'avait imprégnée. Elle renfermait trois petits moments tout simples. Si mes doigts se posaient à la fois sur le loup et sur moi, je nous voyais, Œil de Nuit et moi, en train de dormir, pelotonnés l'un contre l'autre, dans mon lit au fond de ma chemine. Œil de Nuit sommeillait étalé devant l'âtre du fou dans les montagnes lorsque je touchais leurs images respectives. La dernière configuration me laissa d'abord désorienté. Les doigts sur le fou et moi-même, j'oscillais devant l'image qui se présenta et l'observai un moment avant de comprendre qu'il s'agissait d'un souvenir de mon ami. C'était ainsi qu'il me voyait quand il appuyait son front contre le mien et plongeait ses yeux dans les miens. Je reposai la pierre sur la table et le portrait du fou me regarda avec un sourire moqueur. Je lui rendis son sourire et d'un mouvement spontané, touchait son front de l'index. Alors j'entendis sa voix presque comme s'il se trouvait avec moi dans la pièce. Je n'ai jamais été raisonnable. Je secouai la tête. Pour son dernier message, il fallait qu'il me laisse une de ses devinettes. Je me glissai derrière la cheminée et refermai le panneau derrière moi après avoir ramassé mes trésors. Puis, je me rendis à ma salle de travail, où je les cachai en lieu sûr. Girofle apparut et me posa d'innombrables questions sur la pénurie de saucisses. Je lui promis de mener mon enquête.
Il me répondit que je faisais bien, et me mordit un doigt afin que je ne l'oublie pas. Je repris les passages secrets et regagnai discrètement les couloirs de Castelserre. Je savais qu'Astérie devait traîner avec les ménestrels invités pour se renseigner sur leur valeur. Aussi, descendis-je à la salle basse, où ils se réunissaient en général pour répéter et profiter des viandes et de la boisson qu'on leur servait généreusement. Je la trouvai pleine de saltimbanques et plongée dans l'ambiance bruyante d'entraide et de rivalité particulière à cette profession, mais je ne vis nulle trace d'Astérie. J'allai la chercher alors dans la grande salle, puis dans celle d'à côté, en vain là encore. Baissant les bras, je quittai le château pour Bourg-de-Castelserre quand je l'aperçus dans le jardin des femmes. Elle se promenait lentement en compagnie de plusieurs autres dames. J'attendis qu'elle remarquât ma présence, puis allai m'asseoir sur un des bancs les plus retirés, certain qu'elle saurait me retrouver, et de fait, je n'eus pas longtemps à patienter. Mais comme elle s'asseyait près de moi, ses premiers mots furent « Ce n'est pas prudent. Si on nous voit, on va jaser. » Je ne l'avais jamais entendu exprimer la moindre inquiétude à ce sujet jusque-là, et j'en restais interdit en même temps que vexé. Dans ce cas, je vais poser ma question, puis je m'en irai. Je descends en ville chercher Heure. Il paraît qu'il fréquente une taverne à Ménestrel, et j'ai pensé que tu saurais laquelle. Elle eut l'air interloquée.
Moi ?
Non, je n'ai pas mis les pieds dans un tel établissement depuis des mois.
4 au moins.
Elle se laissa aller contre le dossier du banc, croisa les bras et me regarda, attendant que je poursuive. Aurais-tu une idée de celle où je pourrais le trouver ?
Elle réfléchit. La poche du Pélican. Les débutants s'y réunissent pour chanter des chansons paillardes dont ils ont changé les paroles. Ils mènent grand tapage.
Elle s'exprimait d'un ton réprobateur. Je haussai les sourcils et elle expliqua.
C'est parfait pour les jeunes qui s'essaient à la chanson et au conte, mais pas convenable du tout pour quelqu'un comme moi.
Convenable ? Fis-je en m'efforçant de réprimer un sourire. Depuis quand te soucies-tu des conventions ? Elle détourna le visage en secouant la tête, puis répondit sans croiser mon regard.
Il ne faut plus t'adresser à moi de façon aussi familière, Tom. Nous ne devons plus, non plus, nous voir ainsi seul à seul. Cette époque est révolue pour moi.
Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? M'exclamai-je, abasourdi et un peu blessé.
Ce qui me prend ? Es-tu donc aveugle ? Observe-moi bien.
Elle se leva fièrement, les mains posées sur son ventre. J'avais vu des femmes mûres plus petites, affligées d'une panse plus proéminente, et ce fut son attitude plus que son tour de taille qui m'éclaira.
« Tu es enceinte ?»
demandai-je à Uri. Un sourire tremblant joua sur ses lèvres. Soudain, les mots jaillirent d'elle comme un torrent, et je retrouvai l'Astérie que je connaissais.
« C'est quasiment un miracle. La guérisseuse que Sir Pêcheur a embauchée pour s'occuper de moi dit que parfois, quand une femme arrive à la période où elle n'a presque plus aucune chance d'avoir un enfant, elle peut concevoir. Et voici que ça m'arrive. Oh, Fitz, je vais avoir un bébé, un petit à moi. Je l'aime déjà tant que je pense sans cesse à lui, jour et nuit. »
Elle rayonnait d'un tel bonheur que je sciais. Elle avait parfois évoqué son infécondité avec amertume, car selon elle, elle lui interdisait d'espérer un jour bénéficier d'un foyer sûr ou d'un mari fidèle. Mais elle n'avait jamais rien dit de la profonde envie d'enfanter qui avait dû la tenailler toute sa vie. Et j'en restais sidéré. Du fond du cœur, je répondis « Je suis très heureux pour toi. Très heureux.
Je n'en doute pas. »
Elle m'effleura la main d'un contact bref et léger. L'époque des grandes embrassades était révolue. Et je savais que tu comprendrais pourquoi je devais changer d'habitude.
Rien ne doit ternir l'avenir de mon enfant. Pas le moindre parfum de scandale, pas la plus petite trace d'inconvenance de ma part. Je dois devenir une mère et une épouse modèle. Et ne plus m'intéresser qu'à ce qui touche au mien.
Le terrible sentiment de jalousie qui me saisit alors me laissa décontenancé. Je te souhaite toutes les joies d'une vie de famille, fis-je à mi-voix.
Merci. Tu comprends la nécessité de notre séparation, n'est-ce pas ?
Oui. Adieu, Astérie. Porte-toi bien. Je demeurai sur le banc pendant qu'elle s'éloignait. Elle ne marchait pas, elle flottait, les bras croisés sur son ventre, comme si elle tenait déjà son enfant à naître. Mon coucou affamé et criard avait trouvé son nid et s'apprêtait à y installer son petit. J'éprouvai un pincement au cœur en la regardant s'en aller. À sa façon, elle avait toujours été là pour me réconforter quand je traversais de mauvaises passes. Ce point d'ancrage de ma vie avait désormais disparu. En descendant à Bourg de Castelserre, je songeais au temps où nous étions amants. Si je n'avais pas déversé ma peine dans le dragon, aurais-je donné davantage de moi-même à Astérie? Mais de toute manière, je ne lui avais pas concédé grand-chose. Je me remémorais les circonstances de notre rapprochement, et je m'étonnais de mon attitude. La poche du Pélican, soutenue pour moitié par des piliers, se situait dans un nouveau quartier de la ville, au bout d'une rue escarpée qu'il fallait gravir avant de redescendre le long d'une pente raide. La taverne était récente, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas dans mon enfance. Pourtant, ses poutres paraissaient bien noircies par la fumée, et ses tables présentaient les éraflures et les marques de coups de la plupart des établissements fréquentés par les ménestrels, où les gens ont l'habitude de sauter sur les meubles pour chanter ou déclamer une épopée. Étant donné l'heure trop peu avancée pour que les saltimbanques fussent réveillés, je trouvais les lieux quasiment déserts. Le propriétaire contemplait la mer assis sur un tabouret haut près de la fenêtre givrée de sel. Une fois que mes yeux se furent accommodés à la pénombre perpétuelle, j'aperçus Heur installé seul à une table devant plusieurs petits morceaux de bois qu'il déplaçait les uns après les autres, comme les pions d'un jeu inconnu auquel il jouait. Il s'était laissé pousser la barbe, mince ligne de poils bouclés qui suivait celle de sa mâchoire et qui me déplut aussitôt. Je me dirigeai vers lui et restai debout devant la table jusqu'à ce qu'il remarquât ma présence et leva les yeux. Alors il se dressa d'un bond, avec une exclamation qui fit sursauter le tavernier à demi assoupi, et vint me prendre dans ses bras avec effusion.
« Tom, enfin te voici, quel soulagement de te voir! On disait que tu avais disparu. Je suis passé te rendre visite quand j'ai appris que tu étais revenu, mais tu dormais comme une souche. Le guérisseur t'a-t-il remis le message que je t'avais laissé ?»«
Non. » Le ton sur lequel j'avais répondu l'alerta. Ses épaules tombèrent un peu.
« Ah, si je comprends bien, tu es au courant de toutes les mauvaises nouvelles à mon sujet, mais pas des bonnes, je parie. Assieds-toi. J'espérais que tu aurais lu mon billet et que je n'aurais pas à tout te raconter. J'en ai assez de répéter sans arrêt les mêmes explications, d'autant que je ne fais pratiquement plus que ça, en ce moment. »
Il cria.
« Marne, on pourrait avoir deux chopes de bière, et aussi du pain s'il a fini de cuire. »
Il revint à moi.
« Assieds-toi. »
Il reprit sa place à table et je m'installai en face de lui. Il me regarda en face et dit
« Je vais te résumer ce qui s'est passé. Svania m'a pris mon argent et s'en est servi pour acheter des fanfreluches et tirer l'œil d'un autre homme. Elle s'appelle désormais Maîtresse Épingle. Elle a épousé le drapier, qui a au moins le double de mon âge et une situation et de la fortune. Bref, un personnage considérable. Voilà, c'est terminé. »
« Et ton apprentissage ?»
demandai-je à mi-voix. « Je l'ai perdu, » répondit-il sur le même ton. Le père de Svania est allé se plaindre de moi à l'atelier, et maître Guindast m'a sommé de choisir entre changer d'attitude et quitter ma place. J'ai été stupide, j'ai quitté ma place. J'ai tenté de convaincre Svania de s'enfuir avec moi pour aller habiter dans notre ancienne chaumine. Je lui ai dit que ce serait dur, mais que notre amour remplacerait toutes les richesses du monde. Elle s'est mise dans une fureur noire. Elle m'a reproché d'avoir lâché mon apprentissage et m'a déclaré que j'avais perdu la tête si je m'imaginais qu'elle avait envie de passer sa vie au fond des bois à nourrir des poulets. 4 jours plus tard, elle se pavanait au bras de Maître Épingle. Tu l'avais bien jugé, Tom. J'aurais dû t'écouter.
Je me mordis la langue pour éviter de répondre par l'affirmative. Le regard fixé sur la table, je me demandais ce qu'allait devenir mon garçon. Je l'avais abandonné au moment où il avait le plus besoin d'un père. Je réfléchis, puis dit « J'irai avec toi chez Nidast pour voir s'il accepte de reconsidérer sa décision. Je le supplierai si nécessaire.
Non !»
Heur avait l'air épouvanté. Soudain, il éclata de rire.
« Tu ne m'as pas laissé le temps de te raconter la suite. Comme toujours, tu t'attaches au pire et tu crois que c'est tout. Tom, je me trouve ici parmi les ménestrels et je m'y trouve bien. Tiens, jette un coup d'œil à ça. »
Il poussa vers moi les morceaux de bois. Je vis, malgré leur aspect encore grossier, qu'une fois chevillés ensemble, ils formeraient une harpe. J'avais fréquenté Astérie assez longtemps pour savoir que la fabrication d'une harpe rudimentaire faisait partie des premiers pas de l'apprentissage du métier de ménestrel.
« J'ignorais que je savais chanter. Enfin, si, je le savais, mais pas que j'en étais capable au point d'y faire carrière. Depuis mon enfance, j'entends Astérie et je l'accompagne au chant, et je ne m'étais jamais rendu compte du nombre incroyable de ses ballades et de ses contes que j'ai appris par cœur en l'écoutant le soir à la veillée. Certes, elle et moi ne partageons pas le même point de vue, et elle ne m'approuve pas d'emprunter cette voie. Elle dit que tu vas l'en rendre responsable et le lui reprocher. Néanmoins, elle s'est portée garante pour moi, et elle a annoncé publiquement qu'elle m'autorisait à chanter ses œuvres en attendant que je produise les miennes.
On nous apporta la bière et le pain frais, croustillant et encore fumant. À la main, Heure en coupa deux morceaux et mordit dans l'un à belles dents pendant que j'essayais de remettre de l'ordre dans mes idées. « Tu comptes devenir ménestrel ?»«
Oui. Astérie m'a présenté à un gars du nom de Grince-Gorge. Il a une voix épouvantable, mais il joue divinement de tous les instruments à cordes. Comme il prend de l'âge, il aura bien besoin d'un jeune pour porter ses affaires et préparer le feu les soirs où nous coucherons à la Belle Étoile pendant nos tournées. Nous resterons en ville le temps de la fête des moissons, naturellement. Il jouera ce soir à la cheminée basse, et je chanterai peut-être une ou deux ballades pour la petite fête des enfants, en début de soirée. Tom, je ne me doutais pas que la vie pouvait être aussi agréable. J'adore mon métier. Avec tout ce qu'Astérie m'a enseigné sans le savoir, je possède déjà le répertoire d'un compagnon. Je suis en retard pour la fabrication de ma harpe, et je n'ai pas encore écrit grand-chose de personnel, évidemment, mais ça viendra. Grince-Gorge dit que je dois me montrer patient, et ne pas me forcer à composer. Il faut que les chansons viennent d'elles-mêmes.
Je n'aurais jamais imaginé te voir embrasser la carrière de ménestrel, Heure.
Moi non plus.
Il haussa les épaules, puis m'adressa un sourire radieux.
Ça me va comme un gant, Tom. Tout le monde se moque de savoir qui sont mes parents. Nul ne se soucie que j'ai les yeux verrons ou non. Je n'ai plus à supporter la monotonie du travail d'apprenti menuisier. Ah, bien sûr, je pourrais me plaindre des récitations que m'impose Grince-Gorge à l'infini jusqu'à ce que je prononce chaque mot exactement comme il le désire. Mais en réalité, ça n'a rien de difficile. Je ne m'étais jamais aperçu que j'avais une mémoire aussi fidèle.
Et après la fête des moissons?
Ah, c'est la seule ombre au tableau. Je m'en vais avec Grince-Gorge. Il passe toujours l'hiver en Béarn. Nous nous y rendrons donc, en jouant et en chantant pour nous payer le gîte et le couvert pendant le trajet, puis nous nous installerons chez son protecteur pour attendre la fin de la saison froide, bien au chaud, près d'une bonne cheminée.
Et sans regret?
Seulement du fait que je te verrai encore moins que cet été.
Mais tu es heureux?
Oui, autant qu'on peut l'être. D'après Grince-Gorge, quand on se laisse aller, qu'on s'en remet à son destin, au lieu de forcer l'existence et d'essayer de lui imposer sa volonté, on s'aperçoit alors que le bonheur marche toujours derrière soi.
C'est tout ce que je te souhaite, Heure. C'est tout ce que je te souhaite. Nous bavardâmes ensuite de choses et d'autres en buvant notre bière. À part moi, je m'émerveillais de la capacité de mon garçon à se relever malgré tous les coups qu'il avait reçus. Je m'étonnais aussi qu'Astérie fût intervenue pour lui mettre le pied à l'étrier sans m'en rien dire. Si elle lui avait donné l'autorisation d'emprunter son répertoire, c'est qu'elle avait vraiment l'intention de tirer un trait sur sa vie passée. J'aurais volontiers passé la journée à parler avec Heure, mais après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre, il m'annonça qu'il devait aller réveiller son maître et lui apporter son petit déjeuner. Il me demanda si je participerais aux réjouissances de la veille des moissons, le soir même, et je répondis que je n'en savais rien, mais que j'espérais que lui s'amuserait bien. Il m'assura qu'il comptait en profiter, et là-dessus, nous nous fîmes nos adieux. Je passais par la place du marché pour regagner le château. J'achetais des fleurs à un étal, des douceurs à un autre, puis me creusais désespérément la cervelle en quête d'autres idées de présent propre à me permettre de regagner les faveurs de patience. Mais rien ne me vint, et je restais épouvanté du temps que j'avais perdu à déambuler en vain d'une échoppe à l'autre. Quand je décidais de remonter à Castelserre, je me trouvais pris dans la foule qui s'y rendait, elle aussi, derrière un chariot plein de barriques de bière et devant une troupe de jongleurs qui répétaient leur tour tout en marchant. Une des jeunes filles du groupe me demanda si je destinais mon bouquet à l'élu de mon cœur, et quand je répondis que non, qu'il était pour ma mère, tous éclatèrent d'un rire apitoyé. Patience se reposait dans ses appartements, un coussin sous les pieds. Elle m'accabla de reproches, puis se mit à pleurer sur mon manque de cœur. Comment avais-je pu la laisser ainsi se ronger les sangs, sans rien faire pour la rassurer? Pendant ce temps, Brodette plaça les fleurs dans un vase, puis nous servit le thé accompagné des friandises que j'avais achetées. Le récit de mes aventures me fit rentrer dans les bonnes grâces de ma mère adoptive, qui se plaignit néanmoins qu'il y manqua plus d'une décennie de ma vie. J'essayais de me rappeler où j'avais laissé des lacunes dans ma relation quand Brodette déclara d'une voix douce
« Molly nous a rendu visite il y a quelques jours. Nous avons eu plaisir à la revoir après tant d'années. »
Comme je m'asseyais stupéfait, incapable de prononcer une parole, elle poursuivit
« Même en tenue de deuil, elle a gardé toute sa beauté. »
« Je lui ai dit qu'elle n'aurait pas dû m'empêcher de connaître ma petite fille, »
intervint Patience.
« Oh, elle m'a exposé sans bonne raison qu'il l'avait poussée à agir ainsi, mais aucune de satisfaisante à mes yeux. »
« Vous vous êtes disputé avec elle ? » demandai-je atterré. « Quelle nouvelle catastrophe allais-je apprendre ?»«
Non, bien sûr que non. D'ailleurs, elle m'a envoyé la petite dès le lendemain. Orti, quel prénom pour un enfant !» Mais elle a son franc-parler, et c'est un trait que j'apprécie chez une jeune fille. Elle m'a déclaré tout de go qu'elle ne voulait pas de flétribois ni de rien qui pût lui revenir parce que tu étais son père. J'ai répondu que ça n'avait rien à voir avec toi, mais bien avec le fait qu'en tant qu'unique descendante de chevalerie, elle restait la seule à qui je puisse transmettre cette propriété. Et voilà. Elle finira par comprendre, je pense, que je puis lui en remontrer en matière d'entêtement.
Mais guère, observa Brodette, avec un petit air satisfait.
Ses doigts déformés tambourinaient sur le bord de la table. La voir travailler à son éternel ouvrage de dentelle me manquait. « Molly a-t-elle parlé de moi ?» demandai-je tout en redoutant la réponse.
« Oui, mais je préfère ne pas te répéter les termes qu'elle a employés. Elle te savait vivant, sans que j'y fusse pour rien. Avec moi, un secret reste un secret. Ce n'est pas ton cas, apparemment. » Elle venait prête à se quereller avec moi, je pense, mais quand elle s'est aperçue que j'avais souffert moi aussi, pendant toutes ces années où je t'avais cru mort, nous nous sommes découverts un point commun, et nous en avons parlé. Nous avons évoqué ce cher Burick aussi, naturellement, cette chère tête de mule de Burick, et nous avons pleuré sa mort ensemble. C'était mon premier amour, sais-tu, et je ne crois pas qu'on reprenne jamais le petit bout de cœur qu'on donne à un premier amour. Elle n'a pas eu l'air gênée quand je lui ai avoué qu'au fond de moi, j'aimais toujours cet épouvantable entêté. Ainsi que je le lui ai dit, aussi mal élevé que soit son premier amour, on lui garde toujours une place dans son cœur. Elle a reconnu que c'était exact.
Je ne bougeais pas plus qu'une statue.
En effet, elle l'a admis,
appuya Brodette en me jetant un coup d'œil en coin, comme pour se rendre compte du degré de niaiserie dont j'étais capable. Patience s'enchaîna sur d'autres sujets, mais j'eus du mal à me concentrer sur ses propos. L'esprit ailleurs, je me promenais sur des falaises venteuses avec une jeune fille dont la jupe rouge battait sous les rafales. Au bout d'un moment, je m'aperçus que mon hôtesse me disait que je devais m'en aller, car elle devait commencer à s'habiller pour les festivités du soir, et que cela lui prenait plus de temps qu'autrefois. Elle me demanda si j'y assisterais, à quoi je répondis que je m'en abstiendrais sans doute, que j'hésitais à me montrer parmi les nobles assemblés, de crainte que mes traits ne réveillent chez l'un d'eux de vieux souvenirs. Elle en convint, mais ajouta
« Tu as plus changé que tu ne le penses, Fitz. Sans Brodette, j'aurais pu te croiser dans un couloir sans même te reconnaître. »
J'ignorais si je devais prendre cela comme une consolation. Tout en me raccompagnant à la porte, Brodette me confia.
Nous avons tous changé, sans doute, et je ne suis plus celle que j'étais. En revanche, Molly, je l'aurais reconnue n'importe où. Pourtant, elle aussi connaît son lot de changements. Elle m'a dit, figurez-vous, Brodette, qu'on m'a installée dans l'appartement des Violettes, dans l'aile sud. Moi qui logeais comme simple servante dans les étages supérieurs, voici que j'occupe l'appartement des Violettes, où habitaient autrefois Dame et Sire Tremblot. Vous imaginez-vous ça ?
Et encore une fois, elle me lança un rapide coup d'œil entre ses paupières ridées. Je hochai lentement la tête.